évoquées. Est-ce qu'il y a des points éventuellement que vous voulez encore aborder, Amandine ou Karena, pour, entre guillemets, faire une sorte de conclusion?
Oui. Est-ce que je peux faire du coup les 5 minutes sur l'organisation de l'ignorance de nos droits?
Ça fait vraiment
5 minutes. Donc, on a vu donc cette impuissance acquise qui a été mise en place. Elle a été mise en place sur nos droits de l'homme en France, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une incapacité de penser nos droits et d'avoir entendu que les lois elles étaient pas légales et puis elles sont légales puis elles s'appliquent. Alors c'est vraiment quelque chose qui fait partie de cette ingénierie, l'organisation de notre ignorance de nos droits de l'homme qui a été faite à notre insu. Dans Psychologie des foules en 1895, j'ai fait allusion tout à l'heure, il y a donc le psychologue social français Gustave Le Bon, il écrivait que la pensée humaine, elle est en voie de transformation du fait de la destruction des croyances religieuses, donc politique et sociale. Elle l'est également du fait de la destruction de la capacité à s'emparer de ses droits de la part des citoyens. Donc aujourd'hui, la psychologie, elle n'est pas utilisée par d'honnêtes gens. On a pu le voir. Je fais allusion au traité de Joulet qui s'appelait « À l'usage des honnêtes gens ». Elle est utilisée pour contourner le consentement des citoyens à fabriquer une soumission prétendument consentie afin de nous maintenir dans une illusion de démocratie tout en nous confisquant nos droits. Donc, cette fabrique de l'ignorance, elle passe par la technique de l'impuissance acquise qu'on a vu. Donc, il y a aussi Sellingham, on a vu Laborie, Sellingham, on a vu Abrasom peut-être. L'impuissance apprise, ça résume l'état de résignation dans lequel on est plongé quand on est réduit à la passivité par manque d'espoir et manque de maîtrise sur les événements. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on est plongé parce qu'on ne sait pas à quel sein se vouer. En France, le peuple français, nous tous, nous avons été élevés, baignés dans la culture des droits, liberté, égalité, fraternité, au point qu'on pense qu'on en est protégé, qu'on est protégé de toute tyrannie ad vitam aeternam. Du coup, nos droits de l'homme et du citoyen, ils sont absolus. Et pourtant, dans cette histoire, ils ont bel et bien été aliénés à notre insu par leur alignement sur les droits anglo-saxons de la mondialisation à l'origine de l'autoritarisme actuel. On a été donc tenu dans l'ignorance de la spécificité de nos droits français. On a tous été amenés à nous représenter nos droits de façon approximative. Et du coup, faute de les connaître vraiment, on n'a pas su les défendre et on s'est majoritairement résigné. Donc, cette fameuse puissance acquise. Donc, cette confusion concernant les droits de l'homme, elle a été méthodiquement organisée. Elle réside dans l'introduction du concept globaliste de droits fondamentaux qui a gommé la distinction entre le droit naturel français, issu de la nature même, on va dire, et du droit anglo-saxon des autres démocraties libérales qui, lui, il est issu du droit positif jurisprudentiel. Et c'est ce qu'a adopté l'Union européenne. Donc, le droit positif jurisprudentiel, il n'est pas absolu. Il relève de la justice des hommes et des pratiques. Donc, c'est pour ça que je vous invite à voir Valérie Chénard, même à l'inviter, donc psychologie sociale et du travail. Elle a fait un gros travail d'analyse là-dessus. Donc, le pouvoir, il est légitime qu'en démocratie. Il est légitime qu'en démocratie, s'il est circonscrit et exercé dans des limites et des modalités claires qui permettent de concilier les intérêts du prince, du dirigeant, et de celui des hommes. Et depuis le Moyen-Âge en Europe, les abus de pouvoir récurrents ont toujours été limités par des chartes des libertés. Cependant, ces droits de l'homme et libertés ont émergé deux types de contrats sociaux et de systèmes juridiques différents en Europe. Donc, et vous verrez que leurs mécanismes juridiques et leurs organisations sociales, ils sont très différents. D'un côté, vous avez la souveraineté populaire, issue de la démocratie des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon laquelle le peuple promulgue ses lois et les protège. Donc, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. Il est donc impossible juridiquement et légalement d'imposer une injection expérimentale au peuple. Et de l'autre, le droit positif jurisprudentiel, je suis désolée, il ne passe jamais celui-là, issu de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et qui a été repris dans la Charte européenne des droits et des libertés, dans lequel les droits sont négociés avec le pouvoir, c'est-à-dire que c'est les usages qui font les lois. Donc, l'injection expérimentale en phase test peut devenir obligatoire puisqu'il y a plusieurs pays qui la pratiquent et qu'elle participe au pouvoir économique. Et donc, on peut noter que cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle donne les mêmes droits à une personne morale, donc d'une multinationale par exemple, ou aux GAFAM, qui auront les mêmes droits qu'une personne. Donc la France, il faut bien noter que c'est la seule et unique patrie des droits de l'homme qui, grâce à sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en préambule de notre Constitution, émancipe son peuple. Et ce rôle, il a d'ailleurs été rappelé à la Libération dans le préambule de 1946 de la Ve République. Cette identité nationale, elle est unique au monde et elle a donc été détruite de l'intérieur par l'intégration du droit anglo-saxon via les traités européens de l'Union européenne dans son droit suprême constitutionnel. Et cela s'est fait au travers de 19 révisions constitutionnelles perpétrées entre 1992 et 2008. Ainsi, les dirigeants actuels, on va dire, organisent une autre amnésie de nos droits et de notre propre culture afin de faire entrer l'exception française dans le rang de la doxa mondiale. Et pourtant, notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nous protège encore et toujours. Donc, j'ai envie de vous dire, il est de notre responsabilité, peuple des Lumières, de refuser l'asservissement uniformisant qui nous est proposé au travers du voilement de nos droits, de la dépossession de notre consentement, qui nous prive aussi de notre autorité parentale et de nous faire oublier notre pouvoir d'autodétermination. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, je pourrais vous dire le mot de la fin. C'est bon ? Oui. J'ai pensé, en préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, on dit donc l'ignorance et l'oubli et le mépris des droits fondamentaux sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Et je voulais, moi, vous dire, pour paraphraser, on pourrait dire l'ignorance, l'oubli, le mépris des fondements du psychisme sont les seules causes des malheurs psychologiques et de la corruption des comportements de l'homme. Ça pourrait même être en préambule du code de déontologie, puisqu'ils nous ont proposé de refaire notre code de déontologie l'an dernier, sans nous demander notre avis. Voilà.